Indice.
France Info.
Quel bilan économique et social pour Elisabeth Borne qui quitte Matignon après 20 mois passés au poste de Première ministre. Ce bilan social est évidemment marqué, Isabelle Raimond, par la réforme des retraites.
Oui, c'est la réforme emblématique du passage d'Elisabeth Borne à Matignon, cette réforme des retraites, avec une mesure phare, le départ à la retraite repoussé progressivement de 62 à 64 ans, tout en augmentant la durée de cotisation. Cette réforme des retraites, elle a fait l'unanimité syndicale contre elle, avec une intersyndicale qui a regroupé les 8 organisations, de la CGT à la CFE-CGC, en passant par la CFDT pendant 4 longs mois, à raison de 13 journées de mobilisation au total, jusqu'à 3,5 millions de personnes ont défilé dans la rue. Une réforme qui a été adoptée avec un 49-3, le premier utilisé par Elisabeth Borne hors texte budgétaire. Et malgré cette opposition sur le fond des dossiers, sur celui des retraites en particulier, eh bien les syndicats, pour la plupart, gardent une image plutôt positive d'Elisabeth Borne. C'est ce que nous disait tout à l'heure sur France Info le patron de la CFE-CGC, François Omeril. Il garde l'image d'une femme ouverte au dialogue, en tout cas sur la forme. Elle envoyait des messages, elle décrochait son téléphone. Il faut dire qu'elle connaissait les syndicats pour les avoir côtoyés quand elle était ministre du Travail. Un style qui tranchait particulièrement, selon les organisations syndicales, avec celui du président de la République, Emmanuel Macron, qui lui s'est toujours refusé à traiter avec ce qu'il appelle les corps intermédiaires.
Alors voilà pour son bilan en matière sociale. Sur le front économique maintenant, Isabelle, le passage d'Elisabeth Borne à Matignon a plutôt été marqué, évidemment, et ce n'est pas fini d'ailleurs, par la lutte contre l'inflation.
Oui, elle est à mettre à son actif en tant que chef du gouvernement, même si la lutte contre l'inflation est vraiment plutôt incarnée par Bruno Le Maire, le taulier de Bercy, en poste comme ministre de l'économie depuis 2017. Cette lutte contre l'inflation, elle s'est matérialisée notamment par le bouclier tarifaire pour limiter la hausse des prix de l'énergie, par une indemnité carburant et puis pour lutter contre une inflation alimentaire à deux chiffres. Le gouvernement d'Elisabeth Borne a imposé l'avancée des négociations commerciales et puis a mis en place une sorte de panier anti-inflation. Tout cela en tentant dans le même temps de maîtriser la dépense publique. Le discours a suffisamment porté pour convaincre et Bruxelles du sérieux budgétaire de Paris et les agences de notation de ne pas dégrader la note de la dette souveraine de la France.
La chef du service éco de France Info, Isabelle Raimond. Bonsoir Cyril Chabanier.
Bonsoir.
Vous êtes le président de la CFTC. Évidemment, vous avez pendant plusieurs mois défilé, bien sûr, contre la réforme des retraites, mais aussi rencontré à de nombreuses reprises la Première ministre qui aura donc passé 20 mois à Matignon. D'abord, que retenez-vous de son passage à Matignon à Elisabeth Borne ?
Ben, tout d'abord, évidemment, on retient des réformes que nous avons combattues à la CFTC ainsi qu'avec l'ensemble des organisations syndicales, puisque ça a été marqué son passage, et vous l'avez dit dans votre reportage, par la réforme des retraites avec près de 6 mois de mobilisation, 13 manifestations qui ont été effectuées sans pouvoir faire changer d'avis Matignon ou peut-être plus exactement le président de la République et donc l'Élysée. Aussi des combats contre la réforme de l'assurance chômage. Mais en même temps, et je sais que mon collègue de la CGC l'a dit un peu plus tôt sur vos plateaux, quelqu'un dont je reste persuadé qui avait quand même à cœur le dialogue social et qui était... C'est vrai, toujours en contact avec les organisations syndicales. On avait un contact assez facile avec elles. C'est quelqu'un que lorsqu'on appelait pour l'alerter sur un sujet, nous rappelait assez rapidement. Donc, ça reste à la fois un souvenir, je dirais presque mitigé, un souvenir difficile par rapport à des mesures qu'on a fortement combattues, mais une personnalité qui, je crois, était attachée au dialogue social. Et j'espère que la personne qui va succéder aura ce même attachement et cette même disponibilité pour les organisations syndicales.
Attaché au dialogue social, dites-vous néanmoins droit dans ses bottes avec finalement peu de marge de négociation à vous entendre, notamment en ce qui concerne la réforme des retraites ou alors c'était possible de la faire changer d'avis, de cap ?
Je crois qu'il y avait deux difficultés. D'abord, je ne suis pas persuadé que la Première ministre avait toujours les coudées franches dans ses décisions, et on sentait bien que sur une partie des sujets, on aurait peut-être pu la faire bouger un peu plus davantage si le président de la République était allé dans le même sens. Et puis, c'est quelqu'un qui pouvait changer d'avis, mais il faut avouer que pour la faire changer d'avis, il fallait venir avec des arguments lourds, sérieux. C'était quelqu'un qui ne supportait pas qu'on puisse avancer des arguments qui soient pas étayés, qui soient pas démontrés, qui soient pas appuyés par des données statistiques. Donc on savait que pour la faire changer d'avis, il fallait venir avec un dossier très très sérieux et très complet. De là à dire droit dans ses bottes, je sais pas. C'était quelqu'un qui était exigeant dans les dossiers, exigeant je crois avec elle-même, et qui était exigeant avec ses interlocuteurs. Donc vous pouviez pas venir avec un dossier qui était mal ficelé, ça c'est sûr.
Est-ce que vous lui tenez toujours rigueur d'avoir fait passer cette réforme des retraites, ou est-ce que vous avez aussi d'autres choses, peut-être plus positives, à retenir de son passage à Matignon et des dossiers que vous avez pu traiter avec elle ?
Alors évidemment qu'on tient toujours rigueur de cette réforme des retraites, puisqu'on aurait pu financer notre protection sociale de manière différente. À la CFTC, on n'a d'ailleurs jamais nié qu'il y avait un problème de déficit sur le régime des retraites, mais on avait d'autres solutions que de repousser l'âge légal. Donc ça restera évidemment quelque chose qui est négatif sur son passage. Après, il y a des sujets sur lesquels on a pu avancer de manière intéressante. Je pense notamment à la formation professionnelle, sur laquelle il y a eu des avancées intéressante, le plan jeune qui a été plutôt une réussite qu'on a fait, je crois, collectivement, une impulsion sur la transition écologique qui était aussi intéressante. Donc non, évidemment, il n'y a pas que des choses négatives, mais c'est vrai que quand vous avez deux grands chantiers aussi marquants pour les Français qui sont la réforme des retraites et l'assurance chômage, c'est ce, je crois, qui restera un peu de manière emblématique sur son passage, mais sur des tas d'autres sujets, on a pu avoir des consensus et avancer ensemble. Et heureusement qu'il n'y a pas eu que ces deux échecs, qui sont deux échecs très importants, évidemment.
Qu'attendez-vous de celui ou celle qui va lui succéder à Matignon ? Quels dossiers, selon vous, sont prioritaires dans les mois à venir ?
Alors d'abord, on attend de la personne qui sera nommée Première ministre qu'il y ait un attachement au dialogue social. Je crois que dans la situation dans laquelle est notre pays, avec tous les chantiers qui sont devant nous, c'est important qu'il y ait un respect pour les partenaires sociaux, qu'il y ait un respect pour le dialogue social. Si on peut avoir quelqu'un qu'on connaît déjà, nous les organisations syndicales, c'est toujours un plus, parce que vous savez, quand quelqu'un arrive à cette fonction, vous avez toujours un temps d'adaptation. Il faut connaître la personne, sa façon de travailler, sa façon de raisonner. L'avantage qu'il y avait avec Madame Borne, c'est qu'on l'avait eu avant au ministère du Travail, et donc on la connaissait évidemment parfaitement, puisque ce ministère est le ministère avec lequel on travaille le plus. Et sur les sujets brûlants, il y a évidemment la question du pouvoir d'achat, qui est toujours un sujet crucial, même si l'inflation est en train de se stabiliser. Il reste qu'aujourd'hui, c'est la problématique toujours numéro une de nos concitoyens et des salariés. Il faut absolument qu'il y ait des mesures qui soient prises pour les salaires. On voit encore aujourd'hui qu'il y a trop de branches dans lesquelles les minima sont encore inférieurs au SMIC, qu'il y a une fois de plus un SMIC malgré l'inflation qui n'a pas eu de coup de pouce, alors que les organisations syndicales et la CFTC le demandaient. Donc pouvoir d'achat, et puis derrière il y a des questions encore très importantes comme l'école, comme le logement, comme la santé, dans lesquelles à la fois les conditions de travail ne sont pas réunies, et ce sont des chantiers qui sont très très importants.
Dernière question très rapidement, est-ce que Gabriel Attal a le profil idéal que vous évoquiez il y a un instant ?
Bah écoutez, c'est quelqu'un avec qui on a pu un petit peu travailler, je pense, et je crois que c'est quelqu'un qui est quand même attaché au dialogue social. Alors après, il n'a pas fait des ministères parce qu'il est passé par le budget et que depuis 6 mois à l'éducation nationale, donc c'est encore un peu tôt pour juger si il a justement ce profil d'être quelqu'un très attaché au dialogue social. Mais le peu qu'on a pu voir dans les 6 mois laisse plutôt préjuger de choses positives. maintenant, écoutez, c'est, vous savez, on se mêle pas nous des nominations. C'est quelqu'un de jeune, de plutôt talentueux. Je pense que tout le monde le reconnaît. On verra bien si à ce poste-là, il a une vision de vouloir en tout cas travailler et de collaborer dans un dialogue social pertinent et efficace. Mais pour le moment, je ne peux pas juger. Vous savez, on juge sur les actes et pas a priori.
Merci, Cyril Chabanier, président de la CFTC.